gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Figgets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir, et j'ai failli oublier de dire que c'était la causerie à 22h et sur Radio Canu. On a eu des drôles de bruits, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est assez étrange ce soir. Enfin voilà, ce soir, il y a à la technique Clara.
Bonsoir.
Il y a autour de la table Jean-Yves.
Bonsoir Fab.
Bonsoir. Et donc il y a Fab qui a un peu perdu sa voix parce qu'il mange des bonbons de travers, donc il s'excuse auprès des auditrices.
Vous saurez tout.
Bah oui, vous saurez tout. Voilà. Et donc, si vous voulez nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Si vous voulez écouter les blogs, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie, blogs avec un S, donc .radiocanu.org/lacauserie. Sinon, vous allez sur des réseaux sociaux, commerciaux, des trucs de podcast, vous tapez La Causerie Canu et normalement, vous devriez nous trouver là où on est. Voilà, c'est pas mal hein, comme...
Bah c'est précis, moi je trouve. Ouais, c'est vraiment là, on sait où aller. Quoi.
Bah, genre, s'ils nous trouvent pas, c'est fou à l'ailleurs.
Ouais, c'est vrai, c'est qu'on n'y est pas. Quoi.
Oui, mais parce que ça
c'est dingue.
Oui, puis ça évite de faire de... Voilà, puis ça évite de faire de la pub pour ces réseaux sociaux commerciaux et ces diffuseurs de podcasts ou de balado-diffusion, comme dirait l'Assemblée nationale. Non, le machin. Bref, le truc des lettres. Voilà, c'est pas grave. Ouais, comment ça s'appelle là, le machin où ils font le dictionnaire, tout ça là.
L'Académie française.
Ouais, moi je suis de l'époque de
l'Académie. Ayez un petit peu de respect pour les institutions, s'il vous plaît.
Ouais, moi je suis plus Académie des Neufs qu'Académie française, donc c'est mon côté old school. Alors, donc.
Ah bah là, oui. Hein. Bon, bref.
Sur ces bonnes paroles, excusez-nous, c'est dimanche, on se détend un petit peu quand même. Même si on va commencer par un bon gros coup de gueule de Jean-Yves.
Non, ça me ressemble pas.
Du tout.
Du tout, effectivement, ça ne m'y ressemble pas. Je voulais effectivement revenir sur l'allocution présidentielle qui a eu lieu le 9 novembre, soit il y a un peu moins de 15 jours, et j'en ai pas beaucoup vraiment entendu parler sur les ondes rebelles et sur d'autres réseaux en fait. Donc voilà, donc si les premières minutes étaient axées sur la pandémie, la vaccination et les dernières minutes sur la relance du dangereux nucléaire en France, youpi ! Ce qui se trouvait en fait entre les deux était axé un peu plus sur qui va payer en fait toute cette pandémie, tout ça. Et le pouvoir politique a encore trouvé les coupables idéaux, à savoir les personnes qui n'ont pas de boulot, qu'on appelle aussi chômeurs et chômeuses. Enfin non, pardon.
Non, mais j'allais dire, c'est, sinon s'ils cherchaient ailleurs, il y en a d'autres qui peuvent payer, mais bon.
Oh mais là tout de suite, c'est pas du bon sens que tu nous dis là. Et le pouvoir politique, pardon, non, et enfin non... Alors, ça n'a pas été dit directement ainsi. Hein. C'est sous-entendu par ce qu'on pourrait appeler un hymne à la gloire du travail qui nous sortira de tout ce marasme. Le travail comme le centre, l'équilibre de tout. Le travail comme l'alpha et l'oméga de la vie et aussi de la politique du président de la France. Et bien plus. Hein. Donc, le travail est à peu près au centre de l'univers. sans travail.
Ah, bon
ah oui, oui, sans travail, hein, on a eu des sources proches du pouvoir. Sans travail, tout fout le camp.
Ah, alors, a priori, d'un point de vue astronomique, au centre de l'univers, il y aurait plutôt un trou noir.
Bon, non, voilà. Mais c'est le trou noir du travail.
Il n'y a pas de centre à l'univers. Enfin bref.
Non, mais là, ça, là encore, c'est pas très objectif.
Vaste
que tu
débat.
Et donc, quand même, je voulais donner quelques exemples, hein, des déclarations présidentielles pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté notre cher président. Alors, je sais pas parce que je l'aime que je l'écoute, mais j'ai souvent tendance à dire qu'il faut un peu écouter ce que disent nos ennemis pour mieux les combattre et savoir ce qu'ils disent et pensent. Donc, je le cite, hein. Aujourd'hui comme hier, le travail continue d'être notre boussole, le fil rouge de notre action. Ouais, je mets un petit peu d'effet, hein, parce que je trouve que c'est plus sympa.
On aurait dû mettre du violon derrière.
Bon, pas forcément, tu vois, le jeu artistique se suffit.
Attends, je vais trouver ça.
Non, mais arrêtez. Je continue, évidemment. Notre économie crée des emplois comme jamais. Au point que dans des secteurs comme la restauration, le BTP, les services, l'artisanat ou l'industrie, tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter aujourd'hui. Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens. Je continue.
Ah, le bon sens, c'est le truc qu'on appelle quand on ne sait pas quoi mettre.
C'est ça. Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines, a-t-il prévenu. Et il a menacé. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Wow. Vous voyez l'effet ? Il est bon, hein, l'effet. C'est par le travail de tous que nous pourrons continuer de rendre notre État plus solide. C'est par le travail de tous que nous pourrons préserver notre modèle social, nos retraites, la prise en charge des malades, l'accompagnement des familles, là du violon, les meilleures inclusions à l'école, au travail ou dans des structures adaptées pour les personnes en situation de handicap. Vive le travail ! Et une dernière quand même pour la route. Depuis un mois, les règles ont commencé à changer pour rendre la reprise du travail plus attractive dans tous les cas.
Non, c'est pas beau comme du Rimbaud, parce qu'on dit ça souvent, mais non, Rimbaud, c'est beau. Ça, c'est vraiment pourri comme...
Ben oui. Alors, on l'aura toutes et tous compris, hein, le travail permet tout. Le travail est le socle de tout. Ce n'est évidemment pas l'argent, les richesses créées, le socle de tout dans une société capitaliste. Non, ni la répartition des richesses.
C'est pour le sujet d'après.
Non, c'est le travail. Et j'espère que vous avez bien compris et intégré cette donne. Je rappellerai quand même hein, qu'à peine un inscrit à Pôle emploi sur deux touche une indemnité. Hein.
Oui, alors ça, c'est intéressant que tu le dises. Parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'à partir du moment où tu es inscrit à Pôle emploi,
tu touches
quelque chose. Or, c'est pas vrai en fait.
Non.
Hein, voilà.
Et si quelqu'un touche une indemnité, si c'est le cas, donc, c'est tout simplement car cette personne a suffisamment cotisé pour y avoir droit. Oui, parce que bon, faut peut-être le dire comme ça. Hein. En fait, on cotise pour le chômage. C'est pas un cadeau.
Bah, son nom l'indique. Hein. Assurance chômage.
Il faut sens. Là aussi, intégrez-le dans les cervelets. Alors. Pourtant, hein, le président roi de France devrait lire les études de la DARES, la direction des recherches du ministère du Travail. Ce qu'on peut dire qui n'est pas vraiment un repère anticapitaliste, hein, ni de lutte contre l'exploitation salariale. Et il y a un an, cette DARES expliquait que les tensions de recrutement structurelles dans les secteurs qu'il a cités s'expliquent plutôt par des rémunérations trop faibles ou des conditions de travail trop difficiles.
Voire les deux.
Et il ajoutait aussi qu'il y a des différences en fait selon les lieux, selon la géographie. Comme par exemple, et je cite la DARES, c'est le cas des ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment. Ce métier est en tension au niveau national, alors qu'il ne l'est pas dans des départements, dans les départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur. À l'opposé, le métier d'agent d'entretien de locaux n'est pas en tension à l'échelon national, mais elle est en Bretagne et dans le Cher. Bref, le problème, c'est pas juste les chômeurs et les chômeuses fainéants qui refusent de traverser la rue. C'est un petit peu plus compliqué. Mais ça, c'est moins vendeur, en fait. Alors, si vous vous demandez comment et qui va payer les milliards de la crise, qui va faire le beurre des prochaines élections, n'allez pas vous perdre hein, dans l'interrogation de la répartition des richesses, de la justice sociale et économique. Non, 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 non. On vous a dit le travail. Et donc, celles et ceux qui n'en ont pas. Ouh, oui, vous pouvez huer derrière, non. Parce qu'il faut huer les gens qui n'ont pas de travail. Hein. Et ça, en fait, c'est depuis des années, en fait. Hein. C'est même avant Macron. Donc, peut-être que c'est pas qu'une histoire de maître, en fait. C'est peut-être qu'il faut tuer le maître. Mais ça, c'est une autre réflexion.
De façon allégorique.
Mais bien évidemment, c'est de l'allégorie, tout ce que je dis là. Enfin, je suis un poète. Et le pire, hein, à mon avis, en fait, dans tout ça, bah, c'est qu'une majorité de mes semblables humains croient en fait à ce discours.
Bah oui.
Et ils et elles aiment à voir dans les chômeurs, les précaires, conflits et contrôles hein, depuis des années, bah, les responsables de tout. Et je répète, le flicage, les radiations ne datent pas de Macron. Alors désolé hein, pour les révolutionnaires des urnes qui pensent que changer de maître suffira à changer profondément la donne. Niet, c'est mort. Parce que avant Macron, souvenez-vous, il y avait des gens soi-disant de gauche. Et encore avant, il y avait des gens qui étaient de droite. Et puis avant, il y avait des gens qui étaient soi-disant de gauche. Donc finalement, hein, c'est pas là que ça se joue, je crois. Bref. Bah ouais, en fait, parce que c'est qu'il est quand même toujours plus facile et lâche hein, aussi de rendre responsables des maux et des problèmes de nos sociétés les plus pauvres, les plus précaires. Ça fait du bien, vous savez, devant la machine à café au boulot, entre collègues, on aime à croire que nous, on est du bon côté.
Parce que nous, on travaille
bah oui.
Devant la machine à café.
Eh ouais. Et puis bon, c'est du taf qu'on peut reléguer aux agents de Pôle emploi. Et il y aura toujours des petits zélés qui seront adorateur de ce genre de tâches.
Il y a une info qui est sortie d'ailleurs, a priori, après l'allocution, dont tu disais le 9,
ouais.
Dans laquelle Macron dit d'ici un mois, les règles seront...
Quelques semaines,
enfin il n'avait pas donné de délai. C'est après Castex, je crois, le lendemain, qui a parlé d'un mois, enfin voilà, ou la ministre du Travail, enfin je ne sais plus. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que, donc il révélait, c'est sur France Info hein, de mémoire, qu'en fait, il y a déjà des agents de Pôle emploi qui, dès le lendemain, ont pris l'initiative d'eux-mêmes d'envoyer des relances, des questionnaires aux chômeurs qui étaient dont ils avaient la charge.
Ouais, et ben moi je peux dire big up à mon à l'agent Pôle Emploi qui dès le lendemain m'a envoyé un courriel effectivement en me disant attention il faut remplir un questionnaire parce que
c'est dingue, c'est-à-dire que c'est même pas un truc qu'on leur a demandé de faire. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même.
C'est bien pour ça que je parlais de petites personnes zélées
et soumis quoi. Je veux
mais
dire,
bien sûr. Mais adorateurs de leurs petites tâches de contrôleurs. Ils n'ont pas pu faire flic, alors ils ont fait contrôleur à Pôle emploi. Alors que bon, par rapport à tout ça, bah, renverser la table, hein, changer la donne en profondeur, ça demande quand même de s'interroger sur les causes, sur les raisons d'une société où les richesses produites restent majoritairement entre les mains de celles et ceux qui ne les produisent pas. Patrons, actionnaires et tutti quanti. Inverser la vapeur nécessiterait de voir, par exemple, quelques exemples, hein. Bah, que le CAC 40 dans le premier semestre 2021, donc là, hein, juste hier, quoi, bah, a fait 58 milliards de plus. Soit, même sans parler de l'année 2020, hein, période de pandémie, tout ça, bah, ça fait quand même plus de 25% par rapport à 2019. Alors, comme quoi, ça va bien, pas pour tout le monde, mais ça va bien pour certains.
On peut même parler de l'année 2020 parce qu'il n'a pas baissé. Pendant la pandémie, le CAC 40, c'est la bourse qui a baissé. Le CAC 40, lui, non. Les 40 plus grandes boîtes, donc voilà.
Et pour une vision plus globale, hein, moins franco-française, qui élargisse un petit peu la vision de notre nombril, les 20 personnes les plus riches du monde cumulent une fortune globale de 2000 milliards de dollars. Soit une hausse vertigineuse de plus de 60% en un an. C'est marrant ça. Ça, c'est à cause des chômeurs. Ah bah attends, non, il y a un truc là. Et sinon aussi que bah, la thune, hein, on en a déjà parlé aussi ici, hein, des centaines de milliards d'euros, bah, elle est planquée pour ne pas contribuer à la pseudo-justice économique par le biais des impôts.
Donc, et de façon légale. En
plus. Mais de façon bien évidemment légale, enfin. Les riches ne volent pas.
Ils optimisent,
enfin. C'est dingue ça. C'est pas du bon sens que toi tu fais là. Alors, quand on sait hein, que toutes et tous les sans-emploi ne sont pas indemnisés, quand on sait que toutes les personnes qui auraient le droit au RSA ne le touchent pas, quand on sait que toutes les actions entreprises par les gouvernants depuis des dizaines d'années des dizaines d'années, visent à réduire la somme en fait qu'on prend au patronat pour leur en laisser toujours plus. Quand on sait que les fraudes aux cotisations sociales sont dans une infime minorité le fruit des travailleurs et dans la grande majorité le fruit des exploiteurs, et quand on voit que les recettes des politicards sont toujours les mêmes, en tout temps, même si les périodes électorales sont souvent bien pires, à savoir taper sur les exploités du contrat de subordination, les plus précaires, à stigmatiser toujours les plus pauvres, bah cela démontre bien que leurs réponses sont loin en fait d'être du bon sens, entre guillemets, pour reprendre les mots du président. Elles sont loin en fait, leurs réponses, d'être là en fait pour assurer les moyens à toutes et tous de vivre. Et non, de survivre, mais que leurs réponses sont idéologiques, sont politiques. C'est pas du bon sens. Enfin, je veux dire, un président de la République, il fait pas du bon sens. C'est idéologique, en fait. À un moment donné, il faut aussi dépasser leur petit vocabulaire de communicants qu'ils ont appris dans les belles écoles de la République.
Bah non, justement.
Ah oui, c'est ça.
Ils l'ont pas appris pour le dépasser.
Eh oui. Non, mais c'est à nous de le faire.
Ah oui, c'est d'accord.
C'est à nous
d'accord.
de le faire.
Je crois que tu disais qu'il fallait qu'il
non,
dépasse.
Non, non, à nous. Oui, ah non, j'attends rien. J'attends absolument.
J'avais mal compris le sens de la.
Je n'attends rien de ceux qui nous oppressent. Alors, amis auditeurs, auditrices, hein, il faudrait peut-être que nous cessions de fuir, que nous cessions de faire du simplisme comme « contre Macron et son monde !» Bah, vu que, comme je vous disais, ça fait des dizaines d'années que ça existe, c'est pas juste le nom du président qui fait que, en fait. Et cessons, en fait, effectivement, de croire que voter pour un sera moins pire que l'autre. Et interrogeons-nous plutôt de manière radicale. Quid de l'État et de ses serviteurs dans l'injustice sociale et économique ? Quid de l'exploitation salariale, auto-entrepreneuriale et esclavagiste par-delà les frontières ? Quid de la solidarité sans frontières ? Quid des solutions proposées par les politicards quand on a les chiffres cités en début du sujet ? Évidemment, hein, toutes nos réflexions devront, selon moi encore une fois, s'inscrire dans une émancipation individuelle et collective, bah, sinon ça fera que reproduire en fait ce qu'on vit déjà actuellement en fait. Hein. Et on ne pourra accepter aussi hein, de s'émanciper socialement, économiquement, par une politique patriotique, capitaliste, ni par le pouvoir et ni par la prise de pouvoir. Moi, le pouvoir, je vous le laisse et je vous souhaite de vous étouffer avec, en fait. Alors, pas plus hein, qu'on ne pourra s'émanciper par une logique politique qui accepterait la hiérarchisation de l'humanité. Qu'elle soit sexiste, raciste, validiste, tout ce que vous voulez. Non, en fait. Hein. Donc, je dis pas hein, que la route est simple, hein. En tout cas, elle est plus compliquée qu'un coup de gueule un soir au micro de Radio Canu. Je dis pas que c'est facile, mais si on ne veut pas perpétuellement reproduire nos sociétés de pouvoir et de hiérarchie, va falloir se secouer et en secouer un sacré nombre, en fait, autour de nous aussi, en fait, dans le mouvement social, en fait. En commençant à revigorer aussi déjà la critique du salariat et de tout ce qui nous oppresse.
Et du travail.
Mais oui, 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 du travail, du salarié, tout ce que ça englobe, parce que vraiment, la critique du salariat, elle est... Moi, je l'entends pas vraiment, en fait. Et c'est vraiment un gros problème, je pense. Et je finirai par vive l'anarchie et que, comme disait une certaine Emma Goldman, car tous les êtres humains sont nés avec un droit égal de participer au banquet de la vie. Parce qu'on a, on est à peu près 7 milliards et que je pense qu'on a largement de quoi faire pour nous tous et toutes. Et que donc, bah, c'est juste qu'il faut qu'on s'interroge radicalement sur comment on voudrait justement que le monde y tourne, en fait.
Ben, en fait, ouais, je suis en accord avec toi sans aucun problème.
Mais t'as le droit de pas l'être.
Non, non, non.
Le mec est super énervé.
Non, j'étais d'accord. Après, moi, ce qui m'interroge toujours, et c'est une vraie interrogation, c'est la centralité aujourd'hui de la notion et de la valeur travail. Ouais. Alors, c'est assez terrible. Alors, je vais vous raconter un peu ma vie. Je sais que vous sauriez tout ce soir. Moi, quand j'étais plus jeune, et vous allez voir que c'est marrant. Non, mais c'est pour voir. J'habitais une ville qui s'appelle Corba et qui n'est pas très loin de Vénissieux. Et à chaque fois que je passais à Vénissieux en bus, je passais devant une école où il y a un slogan qui avait été fait à l'époque par les communistes qui étaient à la tête de Vénissieux. Ouais. Et le slogan, en fait, il m'avait toujours un peu horrifié, c'est « Travail, paix, humanité ». Et d'un coup, alors moi j'étais jeune, et puis quand on est jeune on n'a pas envie d'aller travailler, et je disais mais travail, paix, humanité, alors paix, humanité, why not hein, mais travail, c'était bizarre cette espèce de truc, et je m'étais dit mais c'est des gens qui, déjà jeune, ils veulent émanciper les gens parce que c'était l'idée hein, mais on ne sort pas de l'idée du travail. Et moi quand j'étais jeune, le travail c'était mes parents, Et c'était donc mon père ouvrier, ma mère employée, qui ont chié comme des ronds de chapeau, comme on dit, pardon, et qui franchement, ils ont même leur laissé en partie leur santé. Mmh. Et je me disais, mais comment on peut avoir comme valeur mise sur une école et comme objectif le travail ? C'était quand même un truc, voilà. Et je me rends compte, alors je suis plus vieux maintenant, ça n'a pas tellement changé, et que même aujourd'hui, à gauche, voire à la gauche de gauche, on parle du travail comme quelque chose de positif. Je suis syndicaliste par ailleurs, et même quand on me dit il faut partager le travail, je me dis ça va pas très loin. Alors effectivement, c'est un mieux, c'est cotère sur jambe de bois, c'est-à-dire que oui, moins on travaille, mieux on se porte. Je vais pas dire le contraire. Sauf qu'en fait, on garde encore la centralité de cette notion de travail. Et en fait, la notion de travail, elle est intrinsèquement hiérarchisée, en fait, qu'on le veuille ou non. Elle est intrinsèquement liée aussi au capitalisme, et elle est intrinsèquement liée à la structure étatiste du monde. Et donc, en fait, je pense que tant qu'on n'interrogera pas cette valeur-là, et pourquoi on la met à toutes les sauces et pour tout, on n'ira pas au bout de l'émancipation réelle des gens. Mmh. On l'a vu avec et on le voit encore aujourd'hui avec certaines dictatures qui se disent communistes ou avec les expériences communistes qu'il y a eu dans l'histoire. Le travail est resté extrêmement central dans ces sociétés-là et ça a écrasé des millions de personnes. C'est-à-dire que là, et d'ailleurs même, la punition était le camp de travail. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même toujours cette notion qui vient et qui est au cœur et au centre de tout. Et en fait, tant qu'on l'interrogera pas profondément, et de façon progressiste, et pas forcément que de façon radicale, parce que revenir à la racine, c'est trouver la cause, mais comment on en sort? C'est en progressant, c'est en dépassant en fait cette notion-là, en sortant en fait de ce centralisme du travail. Et bien, je pense qu'en fait on s'en sortira pas, et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, moi j'entends les discours, y compris à l'extrême gauche, qui nous parlent par exemple du fait qu'on empêche les enfants de réussir à l'école. Mais ça veut dire quoi réussir à l'école? C'est apprendre à lire et à écrire, ou c'est apprendre un métier pour pouvoir être un futur bon travailleur? Et cette brouille-là, en fait, dans qu'est-ce que c'est que la réussite, elle a entaché l'ensemble de la pensée, en réalité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi facile pour un Macron de montrer du doigt ceux qui ne travaillent pas. Parce que le travail, c'est cette espèce de valeur complètement absolue et complètement idiote, excusez-moi, je le dis comme je le pense, qui est au milieu de nos vies, alors que ça devrait être le truc qu'on va faire parce qu'on n'a pas bien envie. Très pallium, hein, travail, hein, ça vient quand même de là, de torture, quoi. Normalement, le travail, c'est le truc qu'on fait parce qu'on est un peu obligé, quoi. Et là, en fait, donc, ça devient une sorte de fierté, de truc. Moi, j'ai vu les débats aussi sur, qui sont les plus productifs en Europe? Comme vous savez, un intérêt de savoir quel est le travailleur qui sue le plus sur la machine. Mais c'est idiot! Et puis t'avais des gens de la bonne gauche, hein, comme on dit, de Mélenchon, en passant par Yannick Jadot et compagnie, qui arrivaient sur les plateaux de télé, qui expliquaient, les Français, quand même, c'est des bons travailleurs, ils ont une productivité énorme. Ici ils ont une productivité énorme, c'est qu'ils travaillent trop. Parce que s'ils sont moins au travail en temps, mais qu'ils produisent plus que le voisin, c'est qu'ils bossent trop. c'est pas une fierté. Et d'un seul coup, il y a cette espèce de truc qui est au milieu. Et moi, je vous jure, ça me dépasse. Je me dis, mais où sont passés les idéaux d'émancipation réelle et de remise en question de cette société du travail, quoi.
Je suis pas un grand historien politique ou autre, mais je pense que, en fait, la critique radical, même si tu la veux progressiste, mais radical.
Radical, c'est trouver la cause, et après, il faut passer au progressisme pour sortir de la cause.
Je pense justement radicale du travail, je pense qu'elle est vraiment portée par très peu.
Mais vraiment très peu.
Je veux dire, moi, les cocos, en fait, c'était pas la gloire du patron, mais c'était la gloire du parti, de l'État ou de je sais pas quoi. Mmh. Et qu'en fait, tu changes juste de maître. Mais le truc reste le même, c'est-à-dire produire, le stakhanovisme, etc.
Oui, qui a été inventé d'ailleurs en URSS.
Donc c'est de toute façon, je pense que...
Et qui n'a jamais existé, je rappelle pour les auditrices et auditeurs, Stakhanov n'a jamais sorti des tonnes et des tonnes de charbon.
Mais ce qui démontre, moi je pense vraiment que cette critique, elle est portée vraiment par très peu de monde, et que c'est à nous individuellement et collectivement, surtout aussi collectivement, parce que tout seul, on est un peu comme un mec qui se croit qui à la radio et qui crache sa colère dans un micro, ça change pas grand chose, mais collectivement il faut absolument interroger ça, je le pense fondamentalement, parce que il y a tellement de choses qu'on retrouve dans le travail qu'on retrouve ailleurs, cette hiérarchisation, cette emprise sur nous, sur nos vies, etc. Et puis C'est quoi le travail en fait? Qu'est-ce qu'on produit en fait?
Pourquoi on met de la valeur sur les gens? Parce que c'est ça qui est derrière.
Ah mais oui, mais ça c'est...
Non mais voilà, non mais là je pose des pistes, j'ai fait exprès, je fais le candide. Mais en fait, il y a un vrai moment où voilà, interrogez-vous. Qu'est-ce qui fait votre valeur? Vous voyez? Qu'est-ce qui fait d'un seul coup que quelqu'un dit, bah alors si tu balayes, et tu nettoies les toilettes, tu vaux 900 euros par mois. Par contre, si t'es assis derrière un bureau avec des colonnes de chiffres et à faire de l'optimisation fiscale, tu vaux 60 000, 100 000, 250 000 euros. Qui fixe ça? À quel moment, en fait, on s'est dit, tiens, voilà la valeur des gens, vous voyez? Et en fait, interrogez ça. Mais posez-vous vraiment la question de l'absurdité de notre société, de l'absurdité de la valeur intrinsèque qu'on donne aux gens, par exemple. Et même le fait qu'on donne de la valeur aux gens. C'est-à-dire que d'un coup, on dit, ils valent ça. Enfin, c'est quand même juste fou. Et ben pourtant, on accepte tous, et moi y compris, je suis salarié.
Ah mais
donc, voilà,
oui,
j'ai pas attention. On est tous dans cet étau-là qui fait que, et ben d'un coup, on trouve légitime et logique qu'on ait tous une valeur. Enfin, non quoi.
Oui, et puis il y a ce côté, c'est pas parce qu'on est obligé de travailler qu'il faut kiffer le travail. En
oui,
fait.
C'est ça. Oui, oui.
Ça aussi, j'en ai un peu marre parce que il y a plein de gens autour de toi quand tu leur parles. Enfin, moi je me souviens, je poussais sur un scooter à livrer des trucs tout pourris. Enfin, pour le SMIC et tout, j'ai quand même un collègue qui me disait, non mais tu te rends compte combien il vous paye bien? Mec, t'es payé le SMIC, tu voudrais te payer encore moins que le SMIC. Donc là aussi, en fait, c'est aussi vachement interrogé. Vous, nous tous, en fait, en tant qu'exploités, en fait, à un moment donné, vous n'avez pas marre de penser pour le patron, quoi. Vous n'avez pas marre de vous dire, oh, le gentil papa patron, non, t'inquiète, s'il t'embauche, c'est qu'il a besoin de main-d'œuvre et que tu lui rapporteras toujours plus que ce que tu lui coûtes. Donc, arrêtez de pleurer, de porter la parole de votre patron, ça ne sert à rien, en fait. Vous ne serez jamais de leur côté, en fait, hein. Ça aussi, hein. Arrêtez d'avoir un peu en ligne de mire cette évolution sociale. Hein,
ah, le fameux échelle, ascenseur social.
L'ascenseur social, tu vois.
Il est coincé. Hein.
Mais ouais, vous y serez jamais. Et puis le jour où vous y serez, ben, c'est ce que je te dis.
Mais si vous, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit une chose une fois et que je trouve assez juste. Si tu montes, c'est que tu as abandonné quelque chose.
C'est ça.
Et je pense qu'il y a une part de vrai.
C'est ce que j'allais dire.
Et big up à mon papa. Et donc voilà.
On sort à tout.
Ouais, j'y ai fait exprès. Non mais blague à part, vraiment, enfin, il y a vraiment quelque chose aussi. Et je voulais juste te dire, parce que ça me tient à cœur. J'en ai marre des discours aussi où qui disent Macron, c'est l'extrême capitaliste et tout. Non, Macron, c'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y avait déjà de 74 à 81 en France. C'est pas nouveau, c'est pas neuf. C'est extrêmement violent pour les salariés. Sauf que la seule réponse qu'on a en fait, bah, c'est la lutte. Et tant qu'en fait, on n'aura pas compris qu'à un moment donné, on n'arrête pas ces personnes-là qui sont persuadées d'être au centre de quelque chose de nouveau, de neuf. Parce que c'était ça, Valéry Giscard d'Estaing était persuadé d'être le plus jeune président.
Ah mais eux, ils sont convaincus de ce qu'ils avancent.
Ils sont convaincus de ce qu'ils font. Mais en fait, le seul moyen de leur rabattre leur caquet, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller.
Oui, et voilà. Et ce qui nécessite que nous on soit convaincus de ce qu'on porte
faut y aller, voilà,
et de ce qu'on veut. Et là aussi, à un moment donné, alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer le syndicalisme parce que absolument des
outils.
Peut-être
le réveiller, par contre.
Oui, oui, mais il faut des. Parce que c'est aussi des outils de lutte, là, tout de suite, dans l'instant.
Oui.
Mais par contre, c'est aussi.
Mais ça suffira pas.
Projeter des idéaux à long terme, en fait, quoi. Parce que, en fait, à être que sur la sauvegarde, là, à l'instant T, du nombre d'emplois, en fait, ça décide plus rien en fait. Et quand on n'a plus d'idéaux, plus d'idéal, mais ça ne veut pas dire devenir des sectaires, c'est pas ça l'idée. Non. Mais avoir un idéal, c'est savoir vers quoi on a envie d'aller. Et ben quand on n'a plus ça, il n'y a plus d'envie. Quand il n'y a plus d'envie, c'est la porte ouverte à tous ceux qui vous vendent de la peur, qui vous vendent du repli sur soi, parce qu'on n'a plus d'idéaux. Et ne plus avoir d'idéaux, c'est faire finalement aussi le jeu. Enfin, en tout cas, c'est nourrir la machine fasciste de toute obédience. Hein. Alors là, qu'elle soit religieuse, nationale, tout ce que tu veux. Et c'est ça, en fait. Donc, cultivons des idéaux, rêvons, émancipons-nous.
Émancipons-nous.
Pardon.
Et juste, quand même, parce que je sais que ça va.
Mais on s'arrête pas. Hein.
Non, mais on va s'arrêter. Il y a Clara qui regarde la montre, qui fait oh, faut y aller. Non, mais juste un truc, parce que je tiens à le dire. Moi, je suis syndicaliste, mais je suis conscient d'une chose, c'est que je suis comme un médecin dans un service de soins palliatifs. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le syndicalisme, et je le suis, donc je le dis pas, je le dis en de connaissance de cause, on est de plus en plus comme des médecins en soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on empêche le pire du pire d'arriver, c'est mais ça. On n'empêche pas le reste. Et ça, c'est lié à la faiblesse collective qu'on a. Et donc, à un moment donné, il va falloir se réveiller et se dire, bah, en fait, le problème, il n'est pas de savoir si le syndicaliste fait bien ou pas son travail, si ceci, si cela, c'est qu'est-ce que je fais, comment je me positionne. Parce que le problème, il est là, c'est qu'on ne change pas une société à 1, 2, 3, on le change à plein de gens, et on ne change pas une société si on n'est que 3 à s'interroger autour d'une bière. Voilà.
Ou d'une table avec des micros.
Oui, tout à fait, voilà.
Bon, allez, on s'arrête là parce que Clara oui. fait les grands yeux. Non, voilà. C'est pas vrai.
Et donc, on met un peu de musique.
Allez.
Avec des quoi ? Avec des si on s'ignore, avec des si on s'y colle, avec des si on fait comme si, avec des si on s'isole, si fort qu'on puisse y pas s'y faire, avec des si on psychote, si souvent pour si peu qu'à la moindre étincelle on s'immole, avec des si on s'y perd, avec des si y'aurait plus de ciseaux qui tiennent et on nous aurait vaccinés contre le sida depuis la sixième, avec des si tous iraient fêter leurs années au cimetière et siroter de la liqueur de licorne et du sirop de sirène. Avec des si, Mallory qui trémique et Mickey nigré. Avec des si, les chats dessineraient dessinés. Avec des si, l'âme, j'te fais des rimes qu'anesthésie tes synapses. Avec des si, même si la rose a l'air épineuse, on s'y frotte. Avec des si, les pigeons se mettent à faire des signes aux cigognes. Avec des si, on s'ignore. Avec des si, on s'y colle. Avec des si, on fait comme si. Avec des si, on s'isole. Si fort qu'on finit par s'y faire.
Hein? Avec des si on s'isole, avec des si on s'y frotte, avec des si on psychote, avec des si.
J'ai déjà dit ça.
Avec des si on coupe des doigts, j'ai déjà dit. J'ai pas précisé les doigts de qui. D'abord ceux qui ont pas pris le train. Express dit, trajet direct pour une comédie. Ma tragédie grecque, t'as outragé que t'as remis, remédie. Si je m'en remets si peu, oh Dieu, c'est que les plus pieux m'endorment comme le Sid Ibrahim de ce midi. Sans lady, on sent les dits, on sent les différences. Ou plutôt, sans idylle, nous resterons à mi-distance. Jusqu'ici, rien d'inédit. Quel est le con qu'a dit qui t'ordine? D'ordinaire d'accord, mais d'ordinaire je n'ai que la mort. En quête d'un paradis perdu par dit. J'ai grandi à chaque fois que je me suis contredit. Au brave les interdits, je comprends pas ton hit radio. Quand t'as pas de marmot, c'est voleur de mercredi. Discret comme mon disque, non pas par peur du discrédit. Sorti du ballon, toujours par bondi. J'ai dit pardon, j'ai dit je t'aime, je crois que j'ai tout redit. J'ai gardé le silence, le bilan s'est alourdi. Salmodip, salmodie, ils ont démoli la mélodie. N'empêche tout va tant que le mal poli m'applaudit.
Avec des si c'est nous qu'on déciderait de c'est qui décide et de ce qui décide. Quitte à ce que ces décisions déçoivent, j'aurais pu faire avec, j'ai préféré faire avec des si. Avec des si on cicatrise, avec du cidre on s'hydrate. Vivement que le silence participe au débat. J'aurai jamais dans mon assiette et même avec des si. Enfin si, mais à tous les coups sera qu'une barquette de frites. Toujours un verre de lait comme t'en as jamais bu d'aussi froid.
Eh hey, mais Didi,
ouais.
C'est vraiment ça? C'est vraiment vrai que tu te nourris que de pain, de lait, de frites et de chips?
Ouais, obligé, j'ai des tocs sinon.
Eh ouais. Mais du coup, t'as jamais dégoulé Youyou de chez Aldi? Payé 10 fois 10 balles, une taille bois, 2 balles de Bacardi. Mais rassure-moi, t'as déjà eu envie. Couper les doigts d'un dandy qui se dandine. Une fois cigare et brandy brandy. Une VIP VIP qui move son dépendant body. Un bad boy bandana, pas même la bande annonce d'un bandit. Un képi képi en bombant un torse NYPD. Un garagiste qui dit que sur ce modèle c'est la maladie. Indy, D, Indy, D.
Un Boissy, un sang d'esprit qui fait que Boissy n'est des psy. Une pharmacienne qui masque mal ses soucis d'épilepsie.
Un simili protégé depuis Didi dans sa parodie. Un Thierry Georges et dit Gilardi sur un sordi d'ordi.
Un VIP du Messi à la merci de sa vessie. Un putain d'MC même pas foutu de faire une passe décisive.
Une midinette qui demande 10 000 lettres dans son maudit Audi. Un dealer de Tcherno devant le pôle emploi qui tradit. Bah oui.
Ben ouais, et ben c'est Radio Canu toujours et c'est la causerie toujours aussi de 22h c'est à 23h. Et on vient de s'écouter avec des de Dédi et de Virus.
Avec des si a priori. Hein.
Avec des si, avec des si, on s'isole avec des si, enfin bref quoi, vous l'aurez compris. Et bien c'est Fab qui prend la suite et toi tu vas nous parler d'un tout autre sujet.
Ouais, je vais vous parler de 63% de légèreté, voilà. Ouais. Parce que ce soir, moi je vous avoue que je voulais parler d'un sujet un peu plus léger que d'habitude. Parce que voilà, comme un besoin de souffler un peu. Bon, même si la première partie de l'émission vous aura fait comprendre que j'ai pas trop soufflé. Alors moi quand j'ai vu une info sur la sexualité marrante, je me suis dit que j'allais creuser un peu. Il y a Jean-Yves qui continue à danser.
Oui, pardon.
Non, voilà, c'est très déstabilisant.
Et... je suis désolé, je te jure, j'ai le truc qui est en tête, quoi. Voilà. Pardon.
Et bon, même si c'est plus léger, il y a quand même finalement des trucs à dire assez sensés autour de cette info.
Mais,
et c'est plutôt cool en fait. Alors l'info, c'est une info qui tue le mythe. Voilà. Alors,
et quel mythe?
Et ouais, l'info est peut-être passée sous les yeux ou dans vos oreilles, parce que des fois vous écoutez la radio, comme maintenant. Le site de rencontre extra-conjugale Glidden, je ne le citerai qu'une fois ce soir, a lancé une grande enquête pour connaître le goût et les habitudes des femmes en termes de sexualité. Plutôt d'ailleurs orienté vers les femmes hétérosexuelles, vu que ce site est basé sur les couples hétérosexuels au départ, même si c'est élargi récemment. Et à l'une des questions posées, la réponse a surpris pas mal de monde. Entre un sextoy et un partenaire, lequel choisissez-vous pour être certaine d'avoir un orgasme ? Eh bien, à 63%, elles ont répondu...
Le sextoy.
Un sextoy ! Eh oui ! Oui, oui, et Clara est totalement d'accord avec cette affirmation.
Non, je répondais à la question.
Oui, oui, et plus étonnant encore, elles sont 68% à répondre cela quand elles sont en couple depuis plus de 2 ans. Voilà. Bon, alors vous me direz, c'est un site de rencontre, oui.
T'as une estimation de l'échantillon de personnes qui...
Ah oui, alors oui, je l'ai...
Ok, tu le dis après.
Non, je l'ai pas dit après, j'ai oublié de me le noter, mais je m'en rappelle. Le questionnaire a été rempli par plus de 3500 personnes, ce qui est plus large qu'un sondage habituel. Bon, vous me direz, c'est un site de rencontre extra-conjugale. Donc, ces femmes sont sans doute insatisfaites, ce qui explique ces chiffres. Ça, c'est ce qu'on dit quand on veut se rassurer. Eh bien, détrompez-vous, ce chiffre n'est pas surprenant et en fait il est dans une fourchette connue de différentes études sur le sujet, que ce soit des études universitaires ou des sondages lancés par des marques ou tout simplement par des magazines ou autres. On tombe toujours à peu près dans cette fourchette-là. Donc voilà. Même si cela met les masculinistes en PLS, hein, je suis désolé pour vous, et d'autres qui vont hurler à la féminisation de notre société, franchement, je m'en fous de ce que vous pensez, il est clair que les femmes hétérosexuelles sont largement donc déçues de leur partenaire et de leur sexualité à deux. Alors, on va... creuser un petit peu le sujet, si j'ose dire. Revenons donc à l'étude elle-même. Donc, en fait, c'est un sondage en ligne, hein, comme je disais, mais c'était assez complet. C'était pas 3 questions, je clique et j'envoie. Dont je parlais ci-dessus. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi donc est-ce que ces femmes préfèrent les sextoys ?
Pourquoi ?
Voilà, merci. Merci pour cet effet qui a totalement foiré. Eh bien, en fait, pour des raisons assez pragmatiques, parce que c'est ça qui est intéressant. 71% d'entre elles avouent que leur vibromasseur et pulsateur clitoridien ou leur sextoy vaginal est plus efficace pour atteindre la jouissance ultime. Parce que c'est ça le truc, c'est l'orgasme, hein, donc la jouissance ultime. Et cela s'explique par 2 ou 3 choses. D'abord, la fameuse sortie du plaisir par la question qui tue. Oui, ça vous savez. Savez-vous, messieurs, que rien n'est pire que le fameux... Tu as joui, balancé en plein ébat quand vous avez un doute lié au spasme de votre partenaire. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous mettre dans la même position dans l'autre sens. Si elle, d'un seul coup, votre partenaire vous regardait dans les yeux et dirait « T'aimes bien ?» Voyez, voilà. C'est juste pour essayer de comprendre. Bon. Peut-être vous avez déjà joui en même temps quand elle vous le voit. Pardon. Dans une étude suédoise, les femmes hétérosexuelles exprimaient comme première sur leur liste la cause de non-orgasme avec un partenaire, le fait qu'on pose cette fameuse question au milieu des ébats. Ensuite, un vibromasseur n'est pas occupé à reproduire les films porno pour se sentir viril, lui. C'est d'ailleurs, dans une étude anglaise de 2017, un des plus gros reproches. Changer de position plus de 3 fois par rapport était un gage de déconnexion du plaisir pour plus de 70% des femmes interrogées. Voilà.
Ça, effectivement, c'est vraiment un truc très porno.
Bah, très
en fait.
Porno, ouais, oui.
Tu fais 15 000 trucs.
Exactement. Et donc, les femmes, en Angleterre, à 70%, elles disent... Bah faites pas, ça c'est pas terrible en fait, voilà. Non messieurs, rassurez-vous, ce n'est pas une question de taille ou de longueur de votre pénis, tout va bien se passer. En effet, 85% des femmes hétérosexuelles interrogées dans une étude de sexologie de l'université de Berlin disent être satisfaites de la taille du sexe de leur partenaire et elles sont 17% à le trouver trop volumineux. C'est dans la raison de l'insatisfaction. Donc je vous rassure, tout va bien.
Mais ça, alors, c'est vraiment une déconstruction. Ça, c'est la construction de la masculinité, hein, vraiment.
Oui, oui, oui. Et par la pornographie.
Et par la pornographie, ouais. Mais il y a vraiment ce côté, la taille de ton sexe, pardon, oui. J'allais être plus vulgaire.
De ta bite, oui, on peut le dire. On est après 22h sur Radio.
Ce qu'il a dit, il a dit bite.
Je peux dire aussi clito et vulve, hein, si vous voulez. C'est pas un problème.
J'en rigole, mais là, je trouve qu'on touche vraiment un des trucs qui est dans la construction vraiment d'une forme de toxicité, de la masculinité,
ouais.
Qui en fait repose sur que dalle, en fait, quoi.
Alors, il y a d'autres raisons.
Hein, oui, évidemment. Oui.
Donc, les objets sexuels sont également plus rapides pour 66% des femmes. interrogé. En fait, c'est à mettre en corrélation avec ce qui est dit au-dessus. Entre le fait de jouer les Superman et de casser le rythme, parce que finalement c'est un peu ça l'idée, il est logique que les sextoys soient vus et vécus comme plus rapides. Bah oui, mais les jouets sont aussi vus comme plus pratiques dans 58% des cas, et aussi souvent plus propres dans 42%
sérieux,
que leur partenaire. Et oui. Et là, messieurs, c'est vous clairement le problème dans ces 42%, c'est vous.
Ah bah oui. Hein,
pour l'hygiène, je tiens à rappeler qu'en moyenne en France, les hommes ne prennent une douche que tous les 3 jours et pratiquent une toilette intime soignée que tous les 2 jours en moyenne.
Et après, faudra aller foutre sa bouche là-dessus, quoi. Oh, c'est
donc,
pas possible,
voilà,
quoi.
Je sais pas si je dois ajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Voilà.
Mais vous avez compris. Je pense que
c'est viril, quoi. Ça sent l'homme.
Voilà, ça sent pas que l'homme. Hein, mais
ouais,
voilà.
C'est ça le problème. Quoi.
L'onanisme, en fait, je voulais le dire, c'est bien aussi. Parce que, on va être clair, hein, avant de continuer, je voulais rappeler quelque chose. L'onanisme, la branle, la masturbation, le plaisir solitaire, appelez ça comme vous voulez, c'est une sexualité à part entière. Faut pas la négliger, c'est une sexualité. Et il n'y a rien de négatif à la préféré à toute autre forme de sexualité, après tout. Pas de problème. Donc, si vous prenez votre pied par cette pratique, et que quel que soit votre sexe ou votre genre, hein, d'ailleurs, ne vous privez pas et n'en ayez jamais honte. Que le plaisir vienne, qu'importe comment, tant que tout est consenti. Voilà. Alors, hétérosexuel versus lesbienne, parce que j'avais quand même envie de vérifier, je me suis dit, est-ce que les lesbiennes sont aussi mécontentes que les hétérofemmes hétérosexuelles ou les bisexuels? Alors je suis allé chercher des études, oui, je n'ai pas oublié Clara, oui non pas je n'ai pas oublié Clara, donc je suis allé chercher des études sur les femmes bisexuelles ou lesbiennes. Eh bien figurez-vous qu'elles sont plus satisfaites du sexe à plusieurs que les hétérosexuels. Pourquoi? En premier lieu, la capacité d'écoute de leur partenaire. Ça arrive quand même en tête, hein. C'est-à-dire qu'on est dans des pourcentages qui atteignent à peu près les 80%. Ouais. C'est-à-dire que dans la première chose qui fait qu'elles ont une sexualité épanouie, c'est on arrive à se parler. Vous voyez, voilà. Le fait que la sexualité n'est pas normée par la pornographie, qui est beaucoup plus faible chez les lesbiennes globalement, et l'envie de faire un exploit à chaque fois, parce que ça c'est très chez les hommes, mais aussi tout bêtement parce que le plaisir est un attendu partagé. Là où il est vu comme centré sur l'homme dans les relations hétérosexuelles. Non, messieurs, les bisexuels et lesbiennes n'ont pas de super pouvoir, je vous assure. Elles ont juste un sens de l'écoute et une culture moins normative que vous. C'est dingue, non? Hein? Vous trouvez pas? Voilà.
Si, c'est dingue.
Oh, trop dingue. Bon, alors, on va se dire, est-ce que tout est perdu? Est-ce que j'arrête ma... Non.
Mais non.
Non. Non, c'est la causerie quand même, on est positif. Bon, messieurs, c'est à vous que je cause là. Alors, oui, mesdames, vous pouvez écouter aussi, parce que de toute façon, ça fait 10 fois que vous leur dites. Et peut-être que comme moi, je leur dis, peut-être qu'ils vont entendre. Allez savoir. Enfin, les messieurs bisexuels ou hétérosexuels, hein, surtout. Vous avez envie que votre partenaire apprécie un peu plus les choses avec vous? Alors déjà, je reprends. Hygiène, en premier lieu. Oui, pardon de revenir là-dessus, mais quand même, quoi. Ça m'a quand même choqué, hein. J'avoue. Quand j'ai trouvé les chiffres, j'ai dit, ouh là là. Et en plus, les chiffres officiels, c'est un ministère qui a fait comme ça.
Non, mais alors, j'ai déjà entendu plusieurs fois, enfin, d'ailleurs, en fait, les Français sont.
Ah, on est vu comme
dégueulasses. Dégueulasses, en fait.
Ben, je comprends mieux pourquoi.
En fait, c'est ça.
Ensuite, messieurs, oubliez les normes que le porno nous inculque, et je m'inclus dedans, hein, voilà. Parler, partager, demander, explorer ensemble avec votre partenaire. C'est ça le plus important. Nous avons toutes et tous une sexualité unique, des plaisirs qui nous sont propres et qui ne sont pas cinématographiques. Parce que je vous rappelle que le porno, c'est axé sur ce qui est possible de filmer. Il y a des pratiques qu'on n'arrive pas à filmer. Alors on ne les met pas dans les pornos, vous voyez, mais ça peut vous faire kiffer. Alors parlez-en, voilà. Encore une fois, le plaisir n'est que partiellement mécanique et profondément lié à votre esprit et ce dont vous le remplissez. Les zones érogènes de vos partenaires, d'ailleurs, pourraient fortement vous surprendre. Voilà. Et j'ai oublié de le noter, mais je m'en rappelle, l'arrière du genou, chez les femmes, arrive en 3e position des zones érogènes. Voilà. Et n'est jamais filmé dans un film pornographique. Bah, c'est pas très cinématographique. Et pourtant, ça arrive en 3e position dans l'étude de Berlin. Donc vous voyez, par exemple, c'est un truc marrant, parce que si vous n'en parlez pas avec votre partenaire, vous ne saurez jamais si l'arrière du genou, ça fait kiffer ou pas. Et c'est important. Alors, comme on l'a dit pas mal de fois dans la causerie, découvrez aussi le clitoris, messieurs. Il est temps, il y a des bouquins, il y a tout ce qu'il faut maintenant. Donc on y va, voilà. Oui, oui, et ça ne mord pas. Je vous jure. C'est un tout petit objet là, tout petite bébête là, mais elle mord pas. Donc, voilà, je dis ça, j'ai piqué ça à la zone Mazorette, hein, je lui rends. Voilà. Et vous savez quoi? Il y a même des tutos en ligne, hein, pour savoir comment le trouver et apprendre à donner du plaisir. Mais encore mieux, découvrez-le avec votre partenaire, parce que les tutos en ligne c'est bien, le dialogue c'est encore mieux, qui souvent, elle sait où il est, et surtout elle sait souvent s'en servir, donc elle peut même vous montrer. Oui, généralement il est à côté de la zone où vous vous acharnez depuis à peu près 3 minutes, parce que c'est comme ça qu'on fait devant la caméra, parce que oui, c'est plus visuel, mais en fait c'est un petit peu en dessous. Enfin, je vous le dis comme ça, voilà. En fait, cette petite enquête légère démontre avant tout que les bases de notre société sont encore bien trop centrées sur le phallus des messieurs, donc profondément patriarcal. Et oui, même au lit, les choses sont plus politiques qu'on ne le pense finalement.
C'est sûr.
Et il ne s'agit pas d'avoir peur du plaisir et du sexe sous prétexte que la société n'est pas parfaite, mais bien là aussi de prendre les choses de façon radicale, à la racine, et de les transformer, et ça rejoint la phrase que j'ai dit tout à l'heure, de façon progressiste, en parlant à l'autre, pour les faire évoluer, changer et aller vers plus d'égalité et chiche, plus de plaisir partagé.
Ce serait vachement bien quand même.
Bah ouais.
Et en même temps, c'est ce que je me disais en t'écoutant, c'est aussi... en fait, on a quand même une grosse problématique, je trouve, c'est justement cette... je ne sais pas si on peut parler d'éducation, ou je ne sais pas comment dire, mais cette éducation à la sexualité, en fait, ou aux sexualités. Et qu'en fait, je trouve qu'il y a vraiment des lacunes, en fait. Enfin, on a des manques. C'est-à-dire que, et moi, enfin, c'était mon cas, mais je veux dire, apprendre la sexualité à travers des écrans et des pornos.
C'est pas ce qu'il y a de mieux.
Enfin, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Et
c'est malheureusement ce qui est le plus simple. Donc, forcément,
oui.
On va vers le plus simple.
Oui, mais ouais. Parce que tu as aussi. Enfin, on est toujours sur le cul, c'est l'intime, donc on n'en parle pas. Bah donc si on n'en parle jamais, bah en fait rien ne changera jamais en fait, et qu'en même temps c'est aussi apprendre, etc., et que on met rarement justement cette notion d'apprentissage, de découverte derrière la sexualité.
C'est ça.
Et quand on parle, enfin, genre des souvenirs en tout cas que j'ai à l'école, et j'espère que ça a changé, même si j'ai des doutes.
Non.
On va souvent t'en parler sous les IST. Ok. Et
attention de tomber pas enceinte.
Oui, c'est ça. Et le système reproductif. Donc, le plaisir, en fait, c'est jamais.
Ce qui est arrivé à l'école, quand même, c'est l'existence de la vulve et du clitoris.
Oui. Ce qui est une avancée. C'est une avancée. C'est-à-dire qu'en 2021, maintenant, on va savoir ce qu'est donc le clitoris. C'est formidable. L'humanité progresse de jour en jour.
Cette petite chose.
Donc, non, mais c'est. Enfin, je trouve qu'il y a aussi ça. Je trouve que c'est vraiment. C'est des espaces de discussion où on n'est pas dans le jugement ni la compétition, ce qui malheureusement est souvent assez compliqué quand c'est entre mecs, parce que on est tout de suite vite dans le...
On en parlera des groupes de mecs dans quelques temps dans la causerie.
Ouais, potentiellement, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a des manques aussi autour de tout ça,
ouais.
Et que en fait la découverte elle est aussi, enfin, elle est individuelle et j'ai presque envie de dire collective, mais on apprend collectivement aussi, etc. Et que, enfin, tu vois, il y avait un truc qui me... on parlait de sexualité individuelle, etc. Et en même temps, on a le chiffre, 63% des femmes allemandes, elles, sauf que... Est-ce qu'elles sont 63% à kiffer l'arrière du genou ?
Non, c'était pas mon propos. C'était juste, en fait, on se rend compte, finalement, dans toutes les études qui sont faites, que l'insatisfaction s'exprime. Et en fait, c'est un peu ça, le truc. Les pourcentages n'ont pas une grande importance. En fait, ce qui est important, c'est de voir que ce qui ressort en premier lieu, c'est l'insatisfaction. Mmh. Et l'insatisfaction, le meilleur moyen de le briser, en fait, c'est le dialogue, c'est la discussion, et c'est oser parler de nos sexualités, de nos envies, de nos délires, de trucs qu'on se demande pourquoi on a ça qui nous passe par la tête, mais que, comme ça nous fait vachement kiffer, on a envie d'essayer. Moi, je mange pas la marmelade d'orange ou des choses comme ça. Non, mais je donne des exemples. Et volontairement, moi, j'ai pris l'arrière du genou parce que ça me faisait délirer de voir qu'en fait, ça arrivait en troisième position de les zones érogènes. Enfin, je me suis dit, mais c'est quand même énorme parce que même moi, j'avais pas pensé à ça. Et je dis, même moi, genre, le mec, c'est un grand spécialiste, c'est pas du tout mon propos. Je veux dire, ça m'était jamais passé par l'idée de me dire, à part à cause d'Ali McBeal, mais que l'arrière du genou pouvait être quelque chose de kiffant. Donc voilà, et pour moi, ça relevait de la blague, du coup, parce que Ali McBeal, tout ça. Et en fait, non, c'est quelque chose de réellement érogène, et tant mieux. Mais sauf que ce qui est particulier, et c'est ce qui ressort de toutes ces... Alors, je parle pas de l'étude de 63%, parce que c'était un peu un truc gimmick pour se marrer, mais des études en plus sérieuses qui ont été faites par des sexologues ou des choses comme ça, c'est l'insatisfaction. Et l'insatisfaction qui est liée avant tout et en premier lieu au manque de dialogue dialogue et de discussion de l'acte sexuel en lui-même. Vous voyez, c'est ça, en fait, le truc. Et voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était cet aspect, hormis la blague au départ, l'aspect finalement politique au sens large du terme, du dialogue entre les gens pour arriver à plus de plaisir en commun. Voilà, c'est plaisir en commun me fait plus kiffer que l'avenir en commun. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà. Donc je veux dire, je trouve que c'était ça qui était pour moi intéressant dans ce...
Et je précise au mec, c'est qu'on peut parler de tout ça sous la douche.
Ah ouais.
Voilà. Non, c'est pour qu'ils prennent une douche, en fait.
Tu comprenais pas la blague. Ah oui, tu peux commencer par une douche.
Ouais, on peut discuter sous la douche, quoi. Mais passe par la douche, quoi.
Ah, je crois que les 42%
ça me dégoûte, quoi. Oh, bordel.
Écoute, une douche tous les 3 jours en moyenne.
C'est incroyable. Ouais, enfin, je trouve ça ouf, quoi.
Ah oui, mais c'est encore les chiffres aujourd'hui. Moi, ça qui me dépasse, c'est vraiment le. Enfin, surtout, je vois plus les gens qui m'entourent de la même façon. Donc, du coup. Bon, allez, on se met un peu de musique.
Allez.
C'est parti.
Bah, ça va venir. Ça vient.
Je dis non. Morito.
Et voilà, fallait bien que ça arrive. Hein. Après plus de 8 ans de causerie, je vous ai enfin passé à Mylène Farmer. Et oui. Bah oui, c'était donc Mylène Farmer après. Avec le titre, pardon, pornographique en deux mots. Voilà, petit titre qui est d'ailleurs souvent interdit en radio parce qu'il paraît qu'il parle un peu trop de sexualité, de feuilles de rose, tout ça. Enfin,
oh
mais
là là,
mais bon, nous, c'est après 22h.
C'est
puis,
mal.
Puis bon, on aime bien non, l'idée de la feuille de rose. Donc voilà.
Puis le cul, c'est juste là puis pour cul, vendre des ouais. produits. Alors que nous, en fait.
Alors que nous, en fait, on n'a pas envie de vendre, on a juste envie que vous preniez du plaisir.
C'est ça.
Donc, on va finir avec un petit agenda.
Ouais, et ben, moi, en premier, ouais, vite fait, c'est voilà. parce qu'il y a un nouveau lieu qui a été ouvert en fait pour les mineurs isolés à Lyon parce que il n'y a pas assez de place dans les squats déjà ouverts, donc il y en a un nouveau qui a été ouvert il y a quelques temps et qui là a besoin de soutien vraiment, donc si vous pouvez y aller le plus rapidement possible c'est tant mieux. C'est 5 places Chardonnay, c'est dans le premier arrondissement de Lyon, donc n'hésitez pas, il y a besoin de soutien sur place. Alors de ce que j'ai vu c'est jusqu'à demain soir, mais en fait je pense qu'il y en aura besoin sur le long terme.
C'est surtout qu'il faut tenir les fameuses 48 heures qui permettent après.
Oui, mais logiquement, voilà. Ça fait plus de 48 heures qu'il est ouvert.
Voilà, c'est important.
Donc voilà, et c'est un ancien bâtiment, on peut le dire, hein, qui est. C'était un bâtiment qui appartient d'ailleurs, pas CTM.
À la métropole ?
Non, aux HCL.
Ah, bah oui.
Aux hôpitaux civils de Lyon.
Ouais.
Et qui sont vides depuis de nombreuses années. Donc, ouais. Autant qu'un bâtiment vide serve à des gens pour qu'ils ne dorment pas dehors, en fait.
Parce que tu veux dire que les hôpitaux civils de Lyon feraient de la spéculation immobilière dans Lyon ?
Si c'était les seuls.
Oh là là, bah, ce serait quand même terrible, ça. Non, mais enfin, je plaisante, mais c'est dégueulasse. Voilà, donc du coup, moi j'ai un deuxième rendez-vous, enfin deux rendez-vous successifs, dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Donc, il y a un rassemblement le 25 novembre à 17h devant l'ENS de Lyon, qui est à l'appel de l'intersyndicale de l'ENS de Lyon, qui appelle à participer symboliquement au rassemblement organisé donc le 25 novembre, 17h devant l'ENS, aux côtés du collectif Tous des Lyonnes de l'Union départementale CGT 69 et du collectif Nous Toutes. Alors je vous rappelle que l'ENS c'est 15 par vie René Descartes dans le 7e, donc vous prenez la ligne B et vous vous arrêtez à Debourg.
C'est ça, voilà. C'est juste à
côté. Ou un des deux trams qui s'arrête à Debourg, c'est juste à côté. Et le rassemblement est donc déposé, donc vous pouvez venir. Et l'idée, c'est de venir dénoncer ce qui s'est passé à l'ENS, c'est-à-dire des tas de procédures ont été mises à jour. Des femmes se sont plaintes de harcèlement et de violences sexuelles à leur encontre. Et la direction a légèrement mis ça sous le tapis, tranquillou, bilou. Voilà. Donc, on va peut-être rappeler à cette direction qu'on ne met pas les choses sous le tapis et que voilà. Et puis aussi soutenir les victimes, évidemment. Et la deuxième manifestation, alors si vous cliquez sur Rébellion, vous tomberez sur un erreur 404, donc il faut... mais elle a lieu quand même, oui, c'est ce que je viens de faire, elle a lieu quand même à 14h à Bellecour, samedi 27, c'est ça, 27, à l'appel de plusieurs collectifs, et donc voilà, donc c'est une manifestation qui a lieu généralement chaque année dans cette période-là, et l'idée c'est de venir dire plus jamais ça sur les violences, voilà, pour les personnes qui sont malheureusement aujourd'hui mis en avant dans les médias, mais bien oubliées par le reste de la société. Voilà.
Ok.
Vous ne comprenez pas ce que j'ai voulu dire ?
Si, non, mais c'est pas grave.
Alors je vais le retirer.
C'est en fait une journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes.
Oui, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup dans les médias, mais que malheureusement, ça ne suffit pas à faire changer la société.
Ah non, c'est-à-dire
que donc, il va falloir continuer malheureusement à marcher, et le jour où on n'aura plus à le faire, on sera content. Voilà. C'est-à-dire que ça ira mieux.
Ça sera pas pour tout de suite.
Je n'étais pas très clair dans ma phrase.
Non. Et ça commence en fait à 14h
ouais,
par le happening des femmes en blanc.
Ouais.
C'est ça, si je me plante pas.
Il y aura une
prise organisée par Filaction, une association qu'on a déjà reçue.
Et ensuite, parole de l'association Résiste aussi, qui sera au milieu de toutes les prises de parole.
C'est ça.
Voilà. Et puis il y aura aussi, bien sûr, comme d'habitude, de l'information à récupérer parce qu'il y a des gens qui tractent. Et il y aura aussi, comme d'habitude, du soutien à apporter. Et puis, ben, si vous avez quelques deniers, n'oubliez pas que les associations, elles ont besoin de thunes.
C'est ça.
Voilà.
Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Oui. On se plante pas.
Bien que les deniers, c'est vieux, venez plutôt avec des euros.
Donc, voilà. Mon pauvre vieux.
Ouais, je sais.
Et ben, je crois que c'est. Mais oui, c'est l'heure de se quitter. On est en plus, on est presque dans les temps. C'est formidable, ouais. Incroyable.
Et c'est
Clara, je crois, qui nous annonce le dernier titre.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est un titre de Mutoni Demer Queen. C'est le deuxième album, je crois. Enfin, le nouvel album. Ouais. Il s'appelle River et le titre c'est Power.
Alors, juste comme ça, amis auditrices, auditeurs, on se moque souvent de Jean-Yves qui a tendance à passer l'ensemble d'un album d'Altar Baud. Alors, pour Clara, ce sera donc Mutoni de Drummer
Queen. C'est pas vrai, c'est que le troisième titre. Et là, c'est un nouvel album.
C'est vrai. Mais en tout cas, ça nous fait super plaisir. Et moi, j'ai un conseil, poussez les meubles et avant d'aller vous coucher, faites un peu d'exercice sur ce titre, ça vous fera du bien. Voilà.
Et eh ben nous on vous donne rendez-vous donc
la semaine prochaine.
Ouais, la semaine prochaine normalement. Ben,
mais oui, mais c'était pour laisser parler un peu plus.
Ah
clair,
oui, pardon.
Ah, et c'est à quelle heure? Pourquoi tu me regardais?
Et c'est à quelle heure la causerie?
À 23h, non?
Ah, elle fera tout pour.
Sans de mauvais esprit. Et ben donc ouais, nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain 22h 23h toujours à l'antenne de Radio Canu. Bon courage pour la semaine à venir et puis ben
prenez du plaisir.
Ouais.
Et à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine des bisous.
Ciao.
Ciao.
You would have us forget, you would have us make it easier, have us regret, you would never say her name. You would have us forget how the mothers pressure freed their sons and daughters caught in torture chambers. Talk about it. Yeah, we've always been great for a long time now, but you always debate for a long time now what a woman should make, what a woman should take, but you never ask a woman what a basic mistake. Naona chenye mimi sitaduni kuagi na mafala busy body like you. Wale wanafikiria sindiria ni weakness, ni better ni speakless, my actions more witness. Keep saying not the right time, you keep telling us not the right time. You keep saying not the right time, you keep telling us not the right time. Whole picture. Getting loud, getting louder, getting loud, getting louder, getting loud, getting louder, getting loud, getting louder. Power, 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 sisi ndio power, watoto wa how, ndio sisi how. This time hatuchoki, this time hatuogopi, pesa hatukopi, tena hatusoti. Umukunishika kwanza jenga kasi vi. Mna pressure ya kumari bata tujiski. Mtabaki mukicheki, shinda mkidibeti. Kwenye ni nageti, pesa ya kibeti. For the women who can be for us, who do the work for us, who make it work for us. For the women who can be for us, who do the work for us, who make it work for us. Whole picture. Getting loud, getting louder, getting loud, getting louder, getting loud, getting louder, getting loud, getting louder. You would always forget, you would never say a name, you would always forget, you would never say a name, you would always forget, you would never say a name, you would always forget. Talk about it.
You have never been straight, you keep telling us. Switch up the date to make choke up.